Merci au groupe de louanges pour, et Gustave pour ces chants et le moment d'adoration, de chercher la face du Seigneur. Voilà. En Inde, on observe que depuis 1997, il y a une augmentation de violence subie par les chrétiens. Une jeune femme de 28 ans, récemment, le mois passé, a-t-il violé, alors qu'elle travaillait seule dans un champ. C'était le 29 novembre, excusez-moi. Attrapée par les villageois, l'agresseur a quand même réussi à s'enfuir. Simplement parce qu'elles sont chrétiennes. De plus en plus de femmes sont molestées, tondues, ce qui est considéré comme extrêmement déshonorant en Inde, ou violées. Les plaintes qui émanent des communautés chrétiennes sont rarement prises en compte par les gouvernements fédéraux. En Érythrée, 45 chrétiens appartenant aux églises interdites, après 5 ans, ont été libérés, et relâchés sous caution. Un autre pasteur reste incarcéré. Au Chine, en préparation des Jeux Olympiques, il y a une répression contre les groupes de maisons, et aussi les Bibles ne sont plus mises en vente près de la cité olympique. Ces cas ne sont pas des faits isolés, ce sont plutôt malheureusement des faits qui se répandent, où nous avons ces cas d'oppression spirituelle et contre les chrétiens, de persécution. On ne doit pas s'étonner qu'il y ait des batailles. Jésus n'a pas dit que ce serait facile. Mais il a dit, je serai avec vous. Tous les jours, il a aussi dit, moi, j'ai vaincu le monde. Dans notre réflexion en Apocalypse chapitre 12, nous lisons comment nous pouvons rester en tant que croyants dans un monde où parfois il y a des batailles qui sont parfois tacites ou pas ouvertes et parfois plus ouvertes contre ceux qui croient en Jésus-Christ ou qui prennent position pour lui. En Apocalypse chapitre 12 et 13, nous verrons trois images qui parlent plutôt de cette bataille ou ces difficultés où, quand on est chrétien, quand on veut croire, il faut se préparer à tenir et à être ferme dans sa foi. Au chapitre 12, premièrement, nous voyons comme une femme. L'Église qui est précieuse, qui donne naissance à un enfant, plutôt Israël, le peuple de Dieu, et qu'il y a au contraire comme une force spirituelle qui est une personnelle, mais qui s'attaque à Israël pour empêcher que Jésus ne soit né. Et on sait qu'il y avait des difficultés lors de sa naissance avec Hérode qui a tué les petits-enfants. On sait qu'il a dû s'enfuir en Égypte. Mais on sait aussi que Dieu avait préparé une place. La Bible dit, en Apocalypse chapitre 12, que c'était un enfant, verset 5, mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'être nourrie pendant 1260 jours. Il y a des conflits, mais nous voyons aussi qu'en même temps, Dieu prépare une place, un refuge. Ici, il est indiqué, c'est un lieu de désert. J'aimais pas trop le désert. Jusque ce que ma famille, Véro et moi, sommes allés avec les beaux-parents dans la vallée de la mort. C'est pas très attrayant comme nom, il faut les reconnaître. Mais en descendant, on a grillé les freins de la camionnette parce qu'il faisait extrêmement chaud. On sortait la fumée des freins, ce n'était pas très rassurant. Mais il y a une beauté, des fleurs, de délicatesse, de douceur, des calmes, même des fauves qui étaient là, le bip-bip. Je suis parti un matin, j'ai séché le petit-déj et je suis allé photographier chercher le bip-bip qui a faufilé, qui a couru. Mais dans le désert, j'ai trouvé qu'il y a une beauté, mais s'il y a aussi un calme. Et Dieu dit que quand il y a une attaque spirituelle, quand il y a une oppression, quand il y a des puissances qui s'élèvent pour essayer de nuire ou de gêner d'une façon directe ou parfois d'une façon un peu plus cachée, dissimulée, la Bible dit aussi que Dieu y prépare un désert. Or, si Estelle était là, elle nous parlerait, car il est là, de son héritage, les Cévennes. Or, ici, c'est une chair du désert, portatif, lors des dragonnades de Louis XIV, en 1704, on portait ces chairs dans le désert, à la cachette, avant que les troupes royales ne les trouvent, on prêchait l'évangile et puis on s'évaporait, on retournait chez soi. On sait que, et si on était attrapé, le prédicateur était tué sur la roue, les hommes étaient envoyés à vie sur la galère, les femmes emprisonnées à vie, et les enfants disposés pour qu'on s'en occupe, sans les parents. Mais il y avait le désert. Et quelques-uns ont tout de même pris la fuite pour aller dans ces lieux, pour écouter Dieu et pour chercher un répit contre ce qui nuit à nos cœurs et à nos âmes. Ce qui nous dit, il n'y a pas d'espoir. Ce qui dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de raison d'être. Et au contraire, il y en avait dans toute l'histoire, ceux qui osaient, qui cherchaient, et Dieu préparait un désert. Or, pour nous aujourd'hui, il y a encore ces moments de désert. C'était intéressant que Jésus-Christ, avant d'aller proclamer, guérir, être avec les gens, et les gens, quand Jésus était là, les gens étaient présents. Parce qu'il avait une telle personne, il était tellement magnifique, et aussi par ses paroles, et par sa guérison. Il a dû se lever, la Bible nous dit, pour aller dans les lieux déserts, lieux sauvages, pour rencontrer son Père. Pour chacun de nous, préparons un coin du désert, de tranquillité, où on peut entrer dans cette présence de Dieu, où on peut écouter autre son qu'il n'y a pas d'espoir, que ce qui fait la critique gratuite, que ce qui détruit, l'art de la réplique, et de trouver plutôt ce qui construit, ce qui édifie, ce qui bâtit, ce qui guérit. Et ça, parfois, on se retire pour écouter, pour comprendre, pour trouver cette face à face avec Dieu. Nous avons chacun un lieu de désert. De deux, la Bible dit que Dieu a élevé ou enlevé cet enfant. Et plus tard, la Bible dit que Dieu même, il donne les ailes comme une aigle à cette femme afin qu'elle prenne le vol. Quand elle est pourchassée sur terre, il donne des ailes. Et mes amis, il y a des ailes que Dieu nous donne. Par sa présence, par son esprit, par la prière, par l'encouragement, par la vis-à-vis, le partage des frères et des sœurs qui le connaissent, qui marchent avec lui, qui le trouvent, et qui constatent qu'il est actif dans leur vie. Et c'est là où Dieu encore ne restez pas sans les ailes. Dieu dit qu'il donne ses ailes à son Église, à son peuple. Nous avons donc toute raison de s'attacher, de venir, de le trouver, de permettre que Dieu lui-même, il nous relève, il nous rehausse, il nous fait planer un peu, ou en tout cas, il nous tire vers le haut pour qu'on ait des ailes pour bien vivre. Des moments, soit dans le désert, dans les lieux où on trouve sa présence, soit où lui-même, il nous élève au-dessus des circonstances et des problèmes où nous sommes parfois pourchassés, poursuivis, pour décourager. C'était fait exprès pour chercher à arrêter Jésus-Christ, à arrêter son Église. Parce que la Bible dit clairement, c'est cet enfant mâle qui doit régner. Et le malin trouve un rival. Il n'en veut pas. Il veut s'en défaire. Mais Dieu a des moyens mis à sa disposition. Dans l'Église, dans les lieux déserts, tout seul pour prier, pour chercher. Mais c'est là où Dieu, il agit. Et finalement, prenons courage parce que la Bible dit que c'était pendant un temps, 1260 jours d'attaque. En France, on ne sort plus les chairs, les pupitres du désert, les pupitres portatifs. Nous avons une liberté, Dieu a mis fin. En 1769, ou en tout cas, avec une autre édite qui donnait la paix en France et la citoyenneté à toute personne qui croit. Et nous avons aussi, dans l'esprit de la laïcité, cette loi qui protège, mais qui pourrait aussi être interprétée des manières diverses. Avez-vous, donc, je remercie Dieu de tout mon cœur de nous retrouver ensemble pour pouvoir nous encourager mutuellement, que Dieu lui-même, il ainsi nous nourrit dans un lieu à part, parce que le Christ, il soigne, il a souvent appelé ses apôtres de venir à part pour se reposer. Et aussi, il nous donne des ailes pour que dans nos cœurs, nous puissions monter vers les cieux pour le toucher, pour le connaître. De deux, pas seulement Dieu nous donne du répit, mais la Bible dit dans ce texte ici qu'il y avait une bataille spirituelle dans les lieux célestes entre, d'un côté, le malin et de l'autre côté, les anges qui et Jésus-Christ. Nous vivons dans un monde qui n'est pas fait que des atomes. Je n'ai jamais vu un atome décider d'aller avec des babitres, de choisir d'aller à droite ou à gauche. Nous vivons dans un monde qui est spirituel aussi, et nous sommes donc des êtres qui sommes aussi spirituels. Et dans les lieux spirituels, il y a aussi d'autres forces invisibles. Et c'est là où, quand il y a des batailles, Dieu nous dit qu'il y a une guerre, verset 7. Et ces anges combattaient avec Michel, un ange, contre le dragon qui représente Satan, cette image est ici. Le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Et il ne se trouve plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, c'est-à-dire Satan ou le malin, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu, à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Ici, c'est une image de cette bataille. Mais c'était aussi écrit que Dieu a vaincu dans le Christ. Jésus a dit que quand il était élevé maintenant en Jean 12, c'est le jugement de ce monde, et maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Le Christ a pris place. Le Christ, dans les cieux, a effacé devant Dieu l'Éternel celui qui accuse son peuple jour et nuit. Qui dit, mais vous vous rappelez, vous, de cette bêtise? Qui dit, mais vous, vous êtes quoi? Vous êtes naze. Vous êtes... Et qui rappelle, qui accuse, ainsi de suite. Alors que Dieu nous dit que c'est lui qui a purifié ses cieux. Il n'y a plus, donc, ces gens d'accusation. Regardons ces paroles. Regardons ce caractère. Il est celui qui est l'accusateur. D'ailleurs, le mot diabolos vient du grec, accusé. Donc, si vous voulez diaboler quelqu'un, vous les accusez. Et c'est son nom. C'est ce qu'il fait. C'est son caractère. Il est aussi celui qui séduit. C'est lui qui veut écarter. C'est lui qui veut aveugler. Ne peut pas permettre de voir un Christ qui est vainqueur. Et puis le 3, il est aussi celui qui est Satan, qui signifie en l'hébreu, cette fois-ci, l'adversaire. Le combattant, c'est lui qui s'oppose. Donc, nous avons une bataille. Nous en aurons. Mais réjouissez-vous, car dans les cieux, il n'y a plus de place pour ces accusations, parce que le Christ est monté, crucifié, comme ont dit les prophètes, ressuscité, comme ont témoigné les apôtres, et c'est lui qui est à la droite du Père et qui rend nul et caduque les accusations. Et nous sommes libres. Et nous avons donc une pleine relation donc, avec Dieu par Jésus-Christ. Et bien qu'on puisse accuser, ou bien qu'on puisse entendre ces accusations, les cieux, quand on entre, quand on accède, quand on vient vers Dieu, sont des lieux de paix et de règne de Jésus-Christ. C'est ce qui a été marqué aussi, et ce qui est expérimenté par chaque personne qui met sa foi en Christ. Il est arrivé le salut, alors ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Et c'était l'événement le plus important dans l'histoire du monde. Et c'est l'événement le plus important dans votre vie, dans ma vie. Parce que nous sommes libres des accusations, et nous sommes libres pour venir à Dieu, et nous n'avons pas donc à nous soumettre à celui qui veut harceler, intimider, accuser et détruire. Dieu veut nous donner une liberté, une vie qui est remplie, qui est pleine, qui est abondante, en Jésus-Christ. Alors, comment ils ont vaincu? Le Christ, il a vaincu. Le malin n'était plus, il n'a plus le droit de nous accuser devant Dieu. Alors, maintenant, comment faire? Ce qu'ils ont fait était dit au verset 11. Ils ont vaincu celui qui accuse jour et nuit à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, c'est en Christ, à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage. Le Christ a déjà payé nos fautes. Il est monté dans les cieux sont purifiés, il n'y a plus de place pour ses accusations contre Dieu, contre nous, le peuple de Dieu. Mais la Bible dit que c'est à notre tour de vaincre, d'entrer dans cette victoire par notre témoignage. Tout simplement, ce qu'on entend, ce qu'on comprend, ce qu'on croit, on promet que Dieu mette cette foi ou on accepte par la foi ce qui était écrit à cause des témoignages des prophètes et à cause des apôtres qui ont donné leur vie aussi pour dire ces choses, et aussi à cause de la parole et de la personne de Jésus-Christ, de qui il est. Personne n'a jamais parlé comme Jésus-Christ. Personne n'a jamais vécu, ou enseigné, ou guéri comme lui. Ou accompli des prophéties. Des dizaines et des dizaines qui parlaient du Messie. Et quand on met son témoignage dans le Christ, on expérimente cette liberté devant Dieu. On expérimente que nous sommes en Christ et son règne vienne dans nos vies et nous libère de l'accusateur. Nous libère aussi parce que le Christ est avec nous contre celui qui est Satan qui s'oppose, qui est l'adversaire de Dieu, qui s'oppose, qui veut détruire. Et nous mettons notre vie en Jésus-Christ. Et c'est lui qui s'est opposé à Satan et quand on est vaincu, il nous donne la victoire. Il faut donc, par son témoignage, et puis finalement, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Il y a des personnes autour de nous. En Algérie, il y a une vague, ces mois-ci, de conflits contre les chrétiens. Pour ceux qui veulent mettre leur confiance en Jésus-Christ, on veut les intimider parce que si on ne les intimide pas, ça va se démultiplier. Et donc, on cherche à demander qu'on les afflige. Et ainsi, au départ, les églises se sont désemplies. Et maintenant, ces églises commencent à prier les uns pour les autres et se soutiennent les uns les autres. Ils se donnent les ailes qui élèvent les uns les autres vers le Christ. Et les uns les autres donc trouvent cette paix et cette force pour vivre, même sous la persécution qui a lieu dans ces moments en Algérie. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Et c'est là où quand on s'attache à Christ par le témoignage et aussi par l'engagement, c'est là où on trouve une liberté parce que Dieu est libre pour agir. Ce n'est pas en nous retractant, c'est pas en retirant que Dieu puisse nous aider. C'est là où on se laisse en proie, si je peux dire. Excusez-moi, le sujet n'est pas facile, mais je ne suis qu'une porte-parole. Ce n'est pas ma parole. C'est là où on se trouve en proie spirituelle. Et le malin aussi, et l'adversaire, il peut détruire. Il peut s'aimer des façons directes ou indirectes, soit dans nos façons de penser, de considérer la vie, ou soit de s'opposer carrément à nous. Et c'est là pourquoi nous devons vaincre en nous attachant à celui seul qui a vaincu. C'est pas moi. Celui seul qui a vaincu contre les forces maléfiques, Jésus-Christ. Et de s'attacher à lui par notre témoignage et puis de ne pas se retirer. Et c'est là où ça devient un peu délicat parce que à quel point pouvons-nous dire que Jésus-Christ sera là? La Bible dit qu'il serait là, qu'il serait là pour nous aider, pour nous élever, pour nous fortifier, pour guérir, pour nous protéger les forces spirituelles. Mais regardons encore comment ils ont vaincu. Par le témoignage, passons par le baptême, attachons-nous à Jésus-Christ d'une façon ouverte, et puis de deux, de rester attachés, même jusqu'à ne pas craindre sa propre vie, ce qu'ils ont dit, ce qu'il a été écrit. Donc, à ne pas laisser des demi-mesures, peut-être que, parce que c'est là où dans un déjà, on n'est pas prêt pour la victoire, on sème déjà une sortie pour une démise. Parce qu'on ne peut monter deux chevaux qui galopent. L'un va tirer, et le cavalier, il ne va pas rester debout. Ils ont vaincu. À cause de leur témoignage, je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ, de ce qu'il fait. Je veux expérimenter cette délivrance, cette liberté des accusations, ou en tout cas l'accueil devant Dieu. Et je suis prêt à être face, à tenir face en Jésus-Christ, qui me vient en aide. le mois passé, je crois que c'était le 21 février, le satellite espion américain qui menaçait de s'écraser sur la Terre a été abattu par un missile de l'US Navy. Le missile a été tiré à partir de navires dans l'océan Pacifique. Les spécialistes évaluent une telle opération à 30 millions de dollars, c'est-à-dire 20 millions d'euros. Il a été abattu à une altitude de 210 km au-dessus de la Terre. Pourquoi ? Il perdait de vitesse. Il faut une certaine force pour aller en orbite, pour voler, pour être libre des forces gravitationnelles de la Terre. Et quand on perd de vitesse, il y a ces forces de gravitation qui vont encore faire de sorte qu'on retombe. Ici, il y avait une perte. Nous, Dieu veut nous donner une force pour bien vivre cette vie. Il y aura des obstacles, il y aura un ennemi de notre esprit. Mais s'il vous plaît, à comprendre que Dieu qui veut nous mettre avec lui, il faut rester. Il faut rester. Afin que lui-même, il s'occupe de nous. Afin que lui-même, on reste attaché et ce soit lui-même qui nous garde en attitude, si vous voulez, pour avec lui. Comment faire ? Apprendre tant avec le Christ. Apprendre tant pour s'attacher à lui chaque jour. À renouveler cette relation, cette force que nous avons avec lui. Parce qu'il y a des forces qui tirent vers le bas, alors que Dieu, il veut que nous restions attachés à lui. De deux, passons donc au trois. Dieu prépare un repos, un moment à part, un moment ensemble pour le chercher. Dieu sait nous fortifier. Venez à moi, Jésus-Christ a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Se repit dans un lieu désert pour le connaître, pour le chercher. Deux, une victoire dans les cieux est déjà acquise par Jésus-Christ. Elle est à nous, en Jésus-Christ, et à connaître Jésus-Christ, à s'attacher à Jésus-Christ et à se garder en Jésus-Christ. Et puis finalement, dans le chapitre suivant, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Et ça, c'était que il y a, à la fin des temps, selon le prophète Jean, l'apôtre Jean, il y aura une force qui irait en croissant contre l'Église de Jésus-Christ. Car le diable sait que son temps est court, il sait qu'il a perdu d'avance, il sait que le ciel n'est plus à lui, il sait que nous ne sommes plus à lui, donc il ne peut qu'essayer de décourager ou de freiner le maximum. Pour un temps. Il sait qu'il sera battu. La bonne nouvelle, c'est que ça, c'est juste avant la ligne droite où nous entrons dans l'éternité pour être avec Dieu pour l'éternité. Et donc, il s'acharne. Et nous voyons qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont en beaucoup de pays dans le monde. On en a parlé de plusieurs ce matin, qui sont nuits, découragé ou harcelé par les événements. Au Nigeria, je suis passé par les bâtiments brûlés d'églises à cause de la loi venant du Nord qu'il fallait évincer et même brûler les lieux de culte. Et ça ne fait pas plaisir de voir que tous les villages dont il fallait fuir pour sa vie, là où les gens avaient une liberté d'expression de culte. Ça existe de nos jours. Et pour vous, pour moi, on ne sait pas, je suis pas là pour nous décourager, mais à la fin du temps, il y aura deux personnes qui vont se lever, une personne politique qui aura une puissance qui est décrite au verset 13, 1 du chapitre 13. Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces 7 ceci qu'on dit diadème, et ceux c'était des noms de blasphème. Il était cruel comme un léopard, fort comme un ours, et il avait la gueule d'un lion. Et nous trouvons que c'est une image d'un homme politique qui est puissant, qui s'acharne pour faire l'œuvre du malin, pour essayer de nettoyer, de purger, de purifier la terre du peuple de Dieu. Bon, c'est simplement, nous voyons dans certains pays, il y a déjà, on est passé par ces problèmes en Europe, moins, mais dans d'autres pays, les croyants, sauf les juifs, on les voit ciblés à cause de leur foi. Et tout simplement, à reconnaître que d'une part, il peut y avoir des personnes qui s'opposent à votre foi, qui seront animées par un mauvais esprit ou par le malin lui-même. Et puis de deux, il y a une deuxième bête dans les versets qui suivaient, verset 11, qui montait de la terre et qui, comme un faux prophète, comme un faux Saint-Esprit, ici nous avons une fausse trilogie, Satan, homme politique comme le Christ, et, qui va régner, et puis un faux prophète, qui va obliger la terre, qui va animer son image, et qui va faire de sorte que si on n'a pas, avec une marque comme une marque de puce, sur le front ou mais sur la main, qu'on ne puisse pas acheter. Ça va être réglementé, ça va être contrôlé, ce que dit la Bible. Bon, je ne suis pas là pour vous raconter. Je vous dis ce que la Bible dit. Si la Bible annonce que le Christ est venu, nous pouvons aussi faire confiance que la Bible va nous dire que certaines choses s'opposent à ce Christ, et nous voyons déjà dans certains pays, certaines personnes dans les églises qui paient le prix fort de le connaître. C'est la ligne droite, parce que c'est la fin. 1260 jours, 42 mois, 3 ans et demi, avant que le Christ ne revienne. Bon, pour nous, je ne pense pas qu'on y soit à ce moment, mais il n'est pas exclu d'être loin. Parce que les conditions sont réunies, comme on a vu la dernière fois, que puisse surgir une telle personne qui s'oppose et qui réunit des forces économiques, militaires, religieuses, pour s'opposer à son Église. Que faire? Il semble que la plupart vont capituler. La Bible dit un tout petit mot, et c'est sur quoi on doit s'arrêter. Verset 7. Il est dit tout simplement, ceci est la persévérance des saints. Et c'est là, au verset 13, et le verset 9, 10, pardon. Ceci est la persévérance et la foi des saints. Et c'est là, si vous vous trouvez, parce que vous prenez position pour votre foi, d'être en ligne de mire directe avec les forces, le seul mot que la Bible donne, c'est persévérer, parce que c'est une dernière bataille désespérée pour vous arrêter. Et pour arrêter l'Église de Jésus-Christ. Et on persévère. Pourquoi? Parce que le diable, l'ennemi, a déjà perdu. Le Christ a vaincu, il le sait. Il ne peut plus nous accuser, nous sommes pardonnés, graciés. Nous avons le droit d'être avec Dieu, qui est notre destin éternel. Et c'est le Christ, donc, en lui que nous retrouvons. Cette paix, ce pardon et ce pouvoir, et que faire? On persévère. Jusque ce que Dieu change, Dieu mette fin à ceux qui s'opposent à la foi, à votre foi. Et on résiste et on persévère. Parce que Dieu veut nous donner la victoire. Dieu après, quand c'est vraiment une situation acharnée pour vous, sachez que vous n'êtes pas loin du cible. Parce qu'on ne tire pas que quand l'avion s'approche du cible. Persévérez donc. Reste donc ferme dans la foi en Jésus-Christ. Sache que l'ennemi a déjà perdu. Sache qu'il fait un dernier effort acharné pour nous arrêter, pour vous arrêter. Et après, c'est le règne de Jésus-Christ, comme il était écrit. Son règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, le salut sont venus. Pour résumer, préparons-nous pour vaincre, préparons-nous pour vivre sa foi. Oui, il y aura des batailles. Nous sommes dans une bataille spirituelle qui est contre Dieu. Mais Dieu a déjà gagné la bataille. En lieu de répit, Dieu pourvoira. Restons attentifs, restons ouverts. Venez nous attacher les uns aux autres. Trouvez des amis chrétiens. Fortifiez-vous. Passons des coups de fil, priez pour les uns et pour les autres. Passons du temps aussi à prier pour les uns et pour les autres. Parce que c'est là où vraiment on peut être encouragé, retrouver encore que Dieu, il nous donne ses ailes, qui nous relève vers le haut. Dieu nous donne cette victoire en Jésus-Christ, pas une demi-mesure, pas un pied dedans et un pied dehors. Là, ce qui est dehors, vous avez un ennemi ? Ne laissez pas traîner la vie en dehors de Jésus-Christ. Venons, mettez votre vie en Jésus-Christ, attachez-vous à lui. Et puis finalement, s'il y a des obstacles financiers, politiques ou autres contre vous, c'est bon à prendre courage. Parce que c'est un dernier effort désespéré. Déjà voué à l'échec de l'avance pour vous arrêter. Tenez-vous ferme à Jésus-Christ et vous verrez que lui-même, il a vaincu. Il vous donnera cette paix, cette force et cette grâce qui est uniquement lui. Donc, on va, je crois, chanter un dernier chant avant de passer aux annonces.